Il est 9h08, donc la visite dans mon studio, Myriam Gilbert de Bibliothèque et Archives nationales du Québec sur la rue Jacques-Cartier à Chicoutimi. Allô Myriam!
Bonjour!
Myriam, aujourd'hui on va parler d'un éboulement qui est arrivé en 1928 du côté de l'Anse-Saint-Jean.
Oui, absolument. Bon, tout le monde dans la région, quand on pense à un éboulement, évidemment, on pense à Saint-Jean-Vianney.
Ben oui.
En 71, ou même au déluge en 96, où il y avait eu des éboulements aussi dramatiques. Mais ce que les gens, la plupart des gens ignorent, c'est que la région en a connu quelques autres, dont celui du 25 mai 1928 à L'Anse-Saint-Jean et à Petit-Saguenay, qui avait fait quand même pas mal de dommages pour l'époque. Et donc, ça a été le théâtre d'une tragédie qui avait consterné toute la région à cette époque-là. C'est un vendredi. Il y a trois éboulis qui se sont succédés entre 9h et 11h le matin. Ça avait causé des dégâts considérables. Le premier éboulis a jeté des gens qui habitaient en haut de la falaise dans le bas du village.
Mais voyons donc. Et avec la maison? Tout a descendu, ouais, il était ça. Dans la maison? OK.
Ouais. Et le chemin a été complètement envahi. Ensuite, le deuxième, deux fois plus fort, a déplacé les maisons de quelques pieds à quelques cent pieds, donc tout dépendant des maisons. Et la hauteur des terres éboulées était de 300 pieds sur 200 de pieds de largeur. C'est quand même considérable.
Oui, quand même.
Et la catastrophe s'est produite à environ 300 pieds du chemin public et ça avait emporté 450 pieds de terrain. Et les dommages ont été évidemment conséquents. Il y a un hôtel complètement neuf et cinq ou six maisons qui ont été dérangées. Le garage du presbytère, y compris l'automobile du curé, ont été enfouis.
Voyons, donc sacrilège.
Oui, sous la terre et la boue. Et le presbytère fut évacué ainsi que 15 demeures. L'entraide a été exceptionnelle aussi. Élie Simard, qui est un résident de l'endroit, a offert le gîte à 12 familles, soit 103 personnes. À l'époque, les familles étaient quand même nombreuses.
Hein. 103 personnes?
Oui.
C'est de la visite, ça?
Oui, ça commence à faire du monde. Et le maître de poste, L.H. Gagnon, fait de même pour 4 familles. Fait qu'on voit que les gens avaient le cœur sur la main, d'ailleurs. Dans la région, on est quand même reconnus pour,
absolument,
pour ça.
Absolument.
Et toutes les voies publiques étaient obstruées par les égouts et par la rivière qui montait toujours. Et les paroissiens ne pouvaient plus se rendre à l'église.
Alors, c'est dramatique, oui, à l'époque.
Et le pont près de Benjamin Godreau est aussi menacé par la crue des eaux et pouvait partir à tout moment. Et de plus, l'éboulis a répandu sur ses champs 2 à 4 pieds de boue. Donc, ces terres-là étaient perdues. Donc, on ne pouvait plus faire de la culture parce qu'elles étaient contaminées. Et la rivière, qui auparavant avait une forme de serpent, se retrouva très droite, sans aucune courbe, et ses eaux, elle a comme repris son lit, finalement.
Oui, bien, c'est ce que je comprends, là.
Et ses eaux étaient si hautes que les rues du village en bas furent inondées. Et plus inquiétant encore, les habitants ont remarqué que dans le flanc de la montagne, une large fissure, aggravée par la pluie incessante, s'était faite. Donc, c'était quand même assez... Puis, tu sais, à l'époque, il faut se rappeler, il n'y avait pas de sécurité civile, là.
Non plus.
T'sais, les gens s'arrangeaient...
Il fallait qu'ils observent par
eux-mêmes. Exactement. Et mais les dommages ne furent malheureusement pas que matériels. Il y a un citoyen de Chicoutimi qui a perdu la vie dans cet événement-là. Il s'appelait Raoul d'Auteuil, il avait 53 ans. C'est un représentant de la maison Gravel et Fils de Montréal. Et il était arrivé par le bateau le Saguenay à 9h. Donc lui, il faisait sa tournée à différents endroits. Et c'était une maison funéraire. Il se rendit d'abord pour saluer le curé Uldéric Bouchard à l'Anse-Saint-Jean. Puis, il était là de 9h à 10h15 pour se rendre après ça chez M. M.E. Tremblay, chez qui il pensionnait. Fait qu'il allait coucher là habituellement. Et à ce moment, les deux premiers éboulis venaient de se produire. Mais le curé lui a dit, il a tenté de le dissuader de passer à cet endroit-là. Mais d'Auteuil, qui était trop confiant, il est allé quand même. Il a passé là. Et c'est en contournant une laiterie en face de M. Louis Laberge pour éviter 25 pieds de boue qui obstruait la voie publique, qu'il a été entraîné par le troisième éboulis qui a emporté la maison de la berge et qui a renversé la laiterie au moment où passait la victime.
Être là au mauvais moment, puis pas écouter les conseils
écouter,
de
évidemment.
Gens qui connaissent la nature.
Évidemment. Et il a été enseveli sous la bâtisse. Et quelques temps plus tard, ben, les trois citoyens de l'endroit, Hermine et Gilles Godreau, Charles-Arthur Boudreau et Georges Bouchard, ont aperçu un bras qui apparaissait sous les décombres. Et c'était Raoul d'Auteuil qui a été reconnu. On a appelé à l'aide et le curé Uldéric Bouchard a risqué sa vie pour aller administrer le dernier sacrement sous condition à la victime qui était sûrement déjà décédée. Et un message a été rapidement... OK, rapidement, c'est sûr qu'à l'époque, on s'entend que c'était pas...
La même rapidité qu'aujourd'hui, là. C'était pas Internet.
C'était pas texto. Et ça a été envoyé à Chicoutimi à Monseigneur J.A. Larouche afin d'avertir le coroner Adélard Rivrain qui devait venir faire son enquête quand même sur cette mort-là et qui a retenu les services du bateau Marie-Louise. Et on voit, à l'époque, les gens utilisaient quand même beaucoup pour aller surtout à cette... À cet endroit-là, là, les chemins n'étaient pas toujours très beaux.
Oui, bien, on donc, y allait par l'eau.
Par bateau, et voilà. Et donc, il s'est rendu sur place. Fait que dès 18h le samedi soir, le bateau quittait Chicoutimi avec le docteur Rivrain, le docteur Eugène Tremblay, qui était son assistant coroner. Et il y avait plein de monde qui sont allés. C'était vraiment le député libéral Gustave Delisle. Il y avait René Delisle, docteur Paul Rivrain. En tout cas, plein de gens là, de l'élite de Chicoutimi.
De la haute.
De la haute. Et puis, donc, quelqu'un du Télégraphe du Canadien national, etc. Et finalement, même Arthur Aubin, qui était entrepreneur de pompes funèbres pour récupérer le corps. Et pratiquement, tout ce beau monde furent jurés à l'enquête du coroner, évidemment. Et donc, Raoul Dauteuil, il était natif de Québec. Il a laissé une veuve, Laura Perron, qui avait épousé en 1914 à Jonquière, puis 6 orphelins, dont le plus âgé avait 13 ans. Puis on sait, à l'époque, ben tu sais, c'était les femmes se retrouvaient
toutes seules. Souvent sans... Il n'y avait pas d'aide, il n'y avait pas...
Exactement, il n'y avait pas d'assurance-vie nécessairement.
Non plus.
Et les dommages à l'enseignant ont été évalués à l'époque à 150 000 $, ce qui fait 2 600 000 $ en 2024.
OK, donc c'est intéressant le parallèle.
Oui, c'est ça, c'est quand même...
J'avais jamais entendu parler de cette histoire-là.
Non, hein?
Non.
C'est ça, c'est pas très connu. Puis la municipalité de Petit-Saguenay, elle aussi, a goûté aux caprices de Mère Nature. Donc, ce vendredi-là, les deux grands ponts qui traversaient la rivière sont partis, dont un qui était presque neuf et en fer. Donc, ça fait que la municipalité se retrouvait isolée. Et donc, on a rapporté un fait curieux dans le journal à l'époque. On dit qu'un ébouli d'une hauteur de 150 pieds se dirigeait vers la demeure du marchand Arthur Gagnon. Et tous pensaient que ça allait détruire tout sur son passage. Mais il s'est séparé en deux parties, puis ils ont contourné, dans le fond, l'ébouli, c'est
la maison.
Contourné la maison. Et la maison n'a pas été endommagée.
Ben voyons, mais tu sais, tu restes là, tout seul, là.
Il a été chanceux, un peu comme oui. La petite maison blanche, finalement.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Donc, il n'y avait plus d'accès terrestre, plus de télégraphe, ni de téléphone. La rivière a monté de 30 pieds et a emporté 20 ponts en tout, des petits ponts, mais...
Quand même,
et
là,
plusieurs éboulis se sont produits et 2-3 maisons étaient suspendues dans le vide. On a déjà vu ça. Plusieurs familles ont risqué de mourir de faim parce que si on ne se portait pas à leur secours... Il y avait plusieurs habitants qui menaçaient de quitter l'endroit et si le gouvernement ne leur apportait pas de l'aide. Et donc, aucune victime n'a été à déplorer. Mais deux enfants d'Augustin Tremblay ont tombé à l'eau et furent difficilement sauvés. Donc, ils ont été emportés par le courant. Ils ont pu être sauvés, heureusement. Et c'est ça. Finalement, ben le gouvernement n'a jamais venu porter de l'aide, en fait, compte aux gens.
Coudon.
De Petit-Saguenay, oui, c'est ça. Fait que, dans le fond, ça a resté comme ça. Les gens sont débrouillés par eux autres mêmes. Puis, c'est ça. Finalement, bien, ils ont reconstruit, puis ils ont décidé de rester là tout de même. Mais
dans Saint-Jean, qui est un beau petit village.
Oui, c'est ça. Fait que, c'est sûr qu'il dit... il n'avait pas été nécessaire pour le gouvernement d'envoyer des trains de secours, mais tu sais, il aurait sûrement été nécessaire quand même. Mais finalement, ben, tout le monde s'est aidé et ça a passé comme ça. Mais c'est pour dire que là, aujourd'hui, les gens, on demande beaucoup d'aide
au gouvernement
tout de suite. T'sais. Fait que, puis finalement, la priorité des autorités, c'était de réparer les dégâts qui avaient été faits au chemin et au pont. Et dans le fond, les démarches ont été entreprises. Puis l'abbé Bergeron de l'endroit de Petit-Saguenay, il estimait que les barrages pour le flottage de bio avaient dû se rompre quelque part et occasionner les inondations. Et le niveau de la rivière Petit-Saguenay s'est alors élevé de 20 à 25 pieds. Fait qu'on peut constater que l'histoire a le don de se répéter pour
oui,
les barrages on, qui,
ben oui,
qui cèdent.
On dirait qu'on se corrige pas.
C'est ça, voilà.
On va dire ça comme ça. C'était super intéressant comme histoire, Myriam. C'est sûr que tu viens nous voir une fois par mois pour nous raconter différentes histoires,
oui.
Mais on peut aller te voir, nous, pour consulter les archives, pour échanger aussi avec toi sur différents sujets. Il y a peut-être des gens qui se posent des questions sur leur propre histoire ou ils ont des histoires à raconter.
Oui, absolument. Ou la généalogie. On a plusieurs bases de données donc, qui sont gratuites sur place.
Vous remontez combien d'années? Hein? Je pense qu'à un moment donné, vous aviez aussi l'information médicale. médicale des gens... ça se peut-tu que vous aviez l'information médicale des gens là, qui ont été à l'orphelinat ou à l'hôpital pendant
Non,
temps?
Pas médicale, parce que ça, c'est vraiment dans le dossier médical, les archives médicales.
OK, je pensais que vous aviez récupéré ça à un moment donné.
Non, c'est ça, on est dans l'ancien orphelinat, mais les dossiers sont vraiment au centre jeunesse pour ceux qui ont été adoptés ou qui étaient orphelins à l'époque. Mm-hmm. Mais on a souvent des demandes, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont passé par là.
Oui, puis qui reviennent voir.
Qui reviennent voir, exactement, puis qui cherchent un peu, tu sais, des réponses. C'est sûr que nous, c'est au niveau plus de la bâtisse ou etc. qu'on a des choses. Ce qui est de leur dossier, bien là, nous, on les dirige. Dans le fond, on peut les diriger où il faut pour qu'ils aient accès à leur dossier quand c'est eux qui sont concernés. Parce que c'est sûr que si on cherche pour quelqu'un d'autre, là, c'est...
Oui, bien c'est ça, ben c'est ça.
Oui, exactement. Fait que les gens peuvent nous rejoindre là, au 418-698-3516. Mon poste, moi, c'est le 6314. Ils peuvent écrire aussi à archive avec un S Saguenay à commercialbanq.qc.ca. Puis on est ouvert du lundi au vendredi, 8h30 à midi, de 13h à 16h30.
Merci beaucoup, Myriam Gilbert.
Ça fait plaisir.
À très bientôt. Il est 9h19.